Jacques Lacan, séminaire ou pire, le 8 mars 1972. Coupure début de bande.
Que puisque je vise cette année à vous parler de l'un. Je commencerai aujourd'hui à énoncer ce qu'il en est de l'autre, de cet autre avec un grand A, à propos duquel j'ai recueilli il y a un temps l'inquiétude marquée par un marxiste à qui je devais la place, d'où j'avais pu reprendre mon travail. L'inquiétude qui était celle-ci, que cet autre, c'était ce tiers qu'à l'avancée dans le rapport du couple, il, le marxiste, lui, ne pouvait identifier qu'à Dieu. Cette inquiétude dans la suite d'elle cheminer assez pour lui inspirer méfiance irréductible à l'endroit de la trace que je pouvais laisser. C'est une question que je laisserai de côté pour aujourd'hui. Parce que je vais commencer par le dévoilement, tout simple, de ce qu'il en est de cet autre que j'écris, en effet, avec un grand A. L'autre dont il s'agit, l'autre est celui du couple sexuel, celui-là même. Et que c'est bien pour cela qu'il va nous être nécessaire de produire le signifiant qui ne peut s'écrire que de ce qu'il le barre, ce grand A. Oh, pas facile, hein. Oh, je souligne sans m'y arrêter, car je ne ferai pas un pas. On ne jouit que de l'autre. Il est plus difficile d'avancer mmh. en ceci qui semblerait s'imposer. Parce que ce qui caractérise la jouissance, après ce que je viens de dire, se déroberait. Avancerais-je que on n'est joui que par l'autre? C'est bien l'abîme que nous offre en effet la question de l'existence de Dieu. Précisément à celle que je laisse à l'horizon comme ineffable. Parce que ce qui est important n'est pas le rapport avec ce qui jouit, de ce que nous pourrions croire notre être. L'important, quand je dis qu'on ne jouit que de l'autre, est ceci. C'est qu'on n'en jouit pas sexuellement. Il n'y a pas de rapport sexuel. Ni n'en est-on joui. Vous voyez que la langue, que j'écris en un seul mot, la langue qui est pourtant bonne fille, ici résiste. Elle fait la grosse joue. On en jouit, il faut bien le dire, de l'autre. On en jouit mentalement. Dans Parménide, enfin, qui ici prend sa valeur de modèle. C'est pour ça que je vous ai recommandé, afin d'aller vous y décrasser un peu. Naturellement, si vous lisez à travers les commentaires qui en sont faits à l'université, ben vous le situerez dans la lignée des philosophes, vous y verrez que c'est considéré comme un exercice particulièrement brillant, mais après ce petit salut, on vous dit qu'il n'y a pas grand-chose à en faire. Platon a simplement poussé là jusqu'à son dernier degré d'acuité. Ceci qu'on vous déduira de sa théorie des formes. C'est peut-être autrement qu'il faut le lire. Il faut le lire avec innocence, remarquez que de temps en temps quelque chose peut vous toucher. Ne serait-ce par exemple que cette remarque, quand il aborde, comme ça, tout à fait en passant, au début de la septième hypothèse, qui part de « s'il est, n'est pas », tout à fait en marge, et il dit « et si nous disions que le non-est n'est pas ». Et là, il s'applique à montrer que la négation de quoi que ce soit, pas seulement de l'un, du non grand, du non petit, enfin, ces négations comme telles se distinguent de ne pas nier le même terme. C'est bien, quand est-ce dont il s'agit, la négation de la jouissance sexuelle, se croit ce à quoi je vous prie à l'instant de vous arrêter. J'écrive ce S parenthèse du grand A paraît et qui est la même chose que ce que je viens de formuler que de l'autre. On en jouit mentalement. Ceci écrit quelque chose sur l'autre. Et comme je l'ai avancé en tant que terme de la relation, qui s'évanouir, de ne pas exister, devient le lieu où elle s'écrit, telle que ces quatre formules sont là écrites pour transmettre un savoir. Parce que j'y ai déjà fait, il me semble, suffisamment d'allusions. Le savoir en la matière peut-être s'enseigne, mais ce qui se transmet, c'est la formule. C'est justement parce qu'un des termes devient le lieu où la relation s'écrit qu'elle ne peut plus être relation, puisque le terme change de fonction. Qui devient le lieu où elle s'écrit. déclaration n'est que d'être écrite justement au lieu de ce terme. Un des termes de la relation doit se vider pour lui permettre à cette relation de s'écrire. C'est bien en quoi ce mentalement que j'ai avancé tout à l'heure, entre des guillemets, que la parole ne peut pas énoncer. C'est cela qui radicalement soustrait à ce mentalement toute portée d'idéalisme. Cet idéalisme incontestable, elle voit se développer sous la plume de Berkeley des remarques que j'espère que vous connaissez, qui opposent toutes en ceci que rien de ce qui se pense n'est pensé par quelqu'un. C'est bien là argument, ou plus exactement argumentation irréductible, mais qui aurait plus de mordant s'il s'agissait s'il avouait ce dont il s'agit de la jouissance. Vous ne jouissez que de vos fantasmes. Voilà ce qui donnerait portée à l'idéalisme que personne, par ailleurs, malgré qu'il soit incontestable, prend au sérieux. L'important, c'est que vos fantasmes vous jouissent. Et c'est là que je peux revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme vous voyez, mais la langue qui est bonne fille laisse pas sortir cette parole facilement. L'idéalisme avance qu'il ne s'agit que de penser pour en sortir, la langue qui est bonne fille, mais pas si bonne fille que ça, peut-être vous offrir quelque chose, que je vais quand même pas avoir besoin d'écrire, pour vous prier de faire consonner ce que autrement. Enfin, s'il faut vous le faire entendre, Q-U-E-U-E, que de penser, juste que permet la bonne fillerie de la langue en français. C'est dans cette langue que je m'exprime, ben pourquoi j'en profiterais pas? Si j'en parlais une autre, je trouverais un autre truc. Il ne s'agit là que de penser. Non, comme le dit l'idéaliste, en tant qu'on les pense, ni même seulement qu'on les pense donc je suis, ce qui est un progrès pourtant. Mais qu'elle se pense réellement. C'est en ça que je me classe pour autant que ça a le moindre intérêt. Je ne sais pas pourquoi je me classerais. Pourquoi je me classerais philosophiquement? Moi, par qui émerge un discours qui n'est pas le discours philosophique, le discours psychanalytique, nommément, celui dont le schème, je l'ai reproduit à droite. Que je qualifie de discours, raison de ceci que j'ai souligné. C'est que rien ne prend de sens que des rapports d'un discours à un autre discours. Ça suppose, bien entendu, cet exercice de quoi je peux pas dire ni espérer. Que je vous ai vraiment rompu. Tout ça vous passe, bien sûr, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Puisque, d'ailleurs, c'est ce qui fait votre existence, vous êtes bien solidement inséré dans des discours qui précède, disons là depuis un temps, une paye, discours philosophique y compris, pour autant que vous le transmet le discours universitaire, c'est-à-dire dans quel état, vous y êtes bien solidement installé et ça fait votre assiette. Ce qui occupe la place de cet autre, que moi, je mets au jour, faut pas croire qu'il soit tellement plus avantagé sur vous, mais quand même. Mis entre les mains un mobilier qui n'est pas facile à manier. Dans ce mobilier, il y a le fauteuil. dont on n'a pas encore très bien repéré la nature. Ce fauteuil est pourtant essentiel. Parce que le propre de ce discours, c'est de permettre quelque chose qui est écrit là-bas, en haut à droite, sous la forme du S barré, qui est, comme toute écriture, une forme bien ravissante. Que le S soit ce que Hogarth donne pour la trace de la beauté. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Ça doit avoir quelque part un sens. Et puis qu'il faille le barrer, ça en a sûrement un aussi. Mais quoi qu'il en soit, ce qui se produit à partir de ce sujet barré, c'est quelque chose dont il est curieux de voir que je l'écris de la même façon que ce qui tient dans le discours du maître une autre place, la place dominante. Ce S de 1, c'est justement ce que j'essaie pour vous. En tant qu'ici je parle, c'est ce que j'essaie pour vous de produire. En quoi je l'ai déjà dit maintes fois, je suis à la place la même. Et c'est en cela qu'elle est enseignante. Je suis à la place de l'analysant. Écrit s'est-il pensé? Voilà la question. On peut ne plus pouvoir dire par qui ça s'est pensé. Et c'est même en tout ce qui est écrit, ce à quoi vous avez affaire. Dont je parlais. C'est le sujet lui-même. Le sujet en tant qu'hypothétique de ses pensées. C'est hypothétique, on vous en a tellement battu les oreilles, depuis Aristote, là, l'hypokéiménon, qui était pourtant bien clair. On en a fait une telle chose, n'est-ce pas, que une chatte n'y retrouverait plus ses petits. Je vais l'appeler la traîne. La traîne, justement. Cette queue de pensée. De quelque chose de réel qui fait cet effet de comète. Que j'ai appelé la queue de pensée. Et qui est peut-être bien le phallus. Si ce qui se passe là n'est pas capable d'être reconquis, parce que je viens d'appeler la traîne, ce qui n'est concevable que parce que l'effet qu'elle est, est de même sailli que son avènement. À savoir, le désarroi. Permettez d'appeler ainsi. La disjonction du rapport sexuel. Si ce qui se passe là n'est pas capable d'être reconquis, nard, réglé. Si ce qui s'est passé pouvait apporter des moyens d'une repensée. Ce qui consiste justement à s'apercevoir à l'écrit que c'était des pensées. Parce que l'écrit, quoi qu'on en dise, vient après que ces pensées réelles se soient produites. C'est dans cet effort de repenser ce nard réglique, cette répétition, qui est le fondement de ce que nous découvre l'expérience analytique. Que ça s'écrive, c'est la preuve, mais preuve seulement, l'effet de reprise. Nachträglich, c'est ce qui fonde la psychanalyse. Combien de fois dans les dialogues philosophiques, voyez-vous, l'argument, en fait, si tu ne me suis pas jusque-là, enfin, il n'y a pas de philosophie. Ce que je vais vous dire, c'est exactement la même chose. De deux choses l'une. Ou ce qui est encore reçu dans le commun, dans tout ce qui s'écrit sur la psychanalyse, dans tout ce qui coule de la plume des psychanalystes, à savoir que ce qu'ils pensent n'est pas pensable. Et alors, il n'y a pas de psychanalyse. Pour qu'il puisse y avoir psychanalyse, et pour tout dire, interprétation, il faut que ce dont part la queue de pensée ait été pensé en tant que pensée réelle. C'est bien pour ça que je vous ai fait des tartines avec ce Descartes. Je pense donc, je suis. Ne veut rien dire s'il n'est vrai. Il est vrai. Parce que donc je suis, c'est ce que je pense, avant de le savoir et que je le veuille ou non. C'est la même chose. La même chose, c'est ce que j'ai appelé justement la chose freudienne. C'est justement parce que c'est la même chose ce je pense et ce que je pense, c'est-à-dire donc je suis, c'est justement parce que c'est la même chose que ça n'est pas équivalent. Parce que c'est pour ça que j'ai parlé de la chose freudienne. Parce que dans une chose, deux faces, écrivez ça comme vous voudrez, F-A-C-E ou F-A-2-S-E. Deux faces, non seulement pas équivalents, c'est-à-dire remplaçables l'un par l'autre dans le dire, c'est pas équivalent, c'est même pas pareil. C'est pour ça que je n'ai parlé de la chose freudienne que d'une certaine façon. Ce que j'ai écrit, ça se lit. C'est même curieux que ce soit une des choses qui force à le relire. C'est même pour ça que c'est fait. Et quand on le relit, on s'aperçoit que je ne parle pas de la chose. Parce qu'on ne peut pas en parler. En parler. Je la fais parler elle-même. chose dont il s'agit.
Et non, moi, la vérité, je parle.
Elle ne le dit pas, bien sûr, comme ça, mais ça doit se voir. C'est même pour ça que j'ai écrit. Elle le dit de toutes les manières, et j'oserais dire que ce n'est pas un mauvais morceau. Je ne suis appréhendable que dans mes cachotteries. Ce qu'on en écrit de la chose, il faut le considérer. Comme ce qui s'en écrit, venant d'elle, non pas de qui écrit. C'est bien ce qui fait que l'ontologie autrement dit, la considération du sujet comme être, l'ontologie est une honte, si vous me le permettez. Vous avez donc bien entendu, n'est-ce pas? Il faut savoir de quoi on parle.
Donc je suis n'est qu'une pensée.
À démontrer que c'est l'impensable qui pense, ou c'est le fait de le dire qui peut agir sur la chose assez pour qu'elle tourne autrement. Mais c'est en cela que toute pensée se pense de ses rapports à ce qui s'en écrit. Autrement, je le répète, pas de psychanalyse. Nous sommes dans l'Inan, qui est actuellement ce qu'il y a de plus répandu. L'Inan alisable. Il ne suffit pas de dire qu'elle est impossible, n'est-ce pas? Parce que ça n'exclut pas qu'elle se pratique. Pour qu'elle se pratique sans être inan, c'est pas la qualification d'impossible qui importe. C'est son rapport à l'impossible qui est en cause. C'est le rapport à l'impossible est un rapport de pensée. Ce rapport ne saurait avoir aucun sens si l'impossibilité démontrée n'est pas strictement une impossibilité de penser, parce que c'est la seule démontrable. Si nous fondons l'impossible dans ce rapport au réel, il nous reste à dire ceci que je vous donne en cadeau comme ça. Je le tiens d'une charmante femme. lointaine dans mon passé. Restée pourtant marquée enfin, d'une charmante odeur de savon. Avec l'accent vaudois qu'elle savait prendre pour tout en s'en étant purifié savoir le rattraper. Rien n'est impossible à l'homme, qu'elle disait. Je peux pas vous imiter l'accent vaudois, moi je suis pas né là-bas. Ce qu'il faut pas faire, il le laisse. Ceci pour vous centrer, ce qu'il en est de l'impossible. En tant que ce terme fait est recevable pour quelqu'un de sensé. Bon. Eh bien, c'est annulation de l'autre. Ne se produit qu'à ce niveau où s'inscrit de la seule façon qu'il se peut inscrire. À savoir, comme je l'inscris, phi de x est la barre dessus. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas écrire que ce qui fait obstacle, à savoir la fonction phallique, ne soit pas vrai.
Coupure milieu de bande.
Alors, qu'est-ce que veut dire E de X? À savoir, il existe X tel qu'il pourrait s'inscrire dans cette négation de la vérité de la fonction phallique. C'est ce qui mérite que nous l'articulions selon des temps. Et vous voyez bien que ce que nous allons mettre en cause est très précisément ce statut de l'existence. En tant qu'il n'est pas clair, je pense qu'il y a assez longtemps, vous avez les oreilles, la comprenoire rebattue, la distinction de l'essence et de l'existence, pour ne pas en être satisfait. Il y est là sens que le discours analytique nous permet d'apporter de sens au discours précédent. Ce n'est quelque chose que je pourrais, en fin de compte, la connexion de ces formules. Épinglée du terme d'une motivation. Dont l'inaperçu est ce qui engendre, par exemple, la dialectique hegelienne. Qui, en raison de cet inaperçu, ne s'en passe, si je puis dire, qu'à considérer que le discours comme tel régente le monde. Petite note latérale, hein. Pourquoi je ne prendrai pas cette digression, d'autant plus que vous me demandez que ça. Moi, avec ça, parce que si je vais tout droit, ça vous fatigue. Ce qui laisse une ombre de sens, n'est-ce pas? Au discours de Hegel, c'est une absence. Et très précisément, cette absence de la plus-value telle qu'elle est tirée de la jouissance dans le réel du discours du maître. Mais cette absence quand même note quelque chose, elle note réellement l'autre. Non pas comme aboli, n'est-ce pas, mais justement comme impossibilité de corrélat. Et c'est en présentifiant cette impossibilité qu'elle colore, n'est-ce pas, le discours de Hegel. Parce que vous ne perdrez rien à relire, c'est pas simplement la préface de la phénoménologie de l'esprit en corrélation avec ce que j'avance ici. Vous voyez tous les devoirs de vacances que je vous donne, hein. Parménide et la phénoménologie, la préface au moins, parce que la phénoménologie, naturellement, ne le disait jamais. Mais la préface est foutrement bien. Enfin, elle vaut à elle seule le boulot de la relire. Et vous verrez que ça. Vous verrez que ça confirme, que ça prend sens de ce que je vous dis. J'ose pas encore vous promettre que le Parménide en fera autant prendre un sens, mais je l'espère. Parce que c'est le propre d'un nouveau discours. Que de renouveler ce qui se perd dans le tournoiement des discours anciens. Justement le sens. Si je vous ai dit, enfin, qu'il y a quelque chose qui le colore, ce discours de Hegel, c'est que là, le mot couleur veut dire autre chose que sens. La promotion de ce que j'avance, justement, le décolore. Achève l'effet du discours de Marx. Où il y a quelque chose hein, que je voudrais souligner et qui fait sa limite. C'est qu'il comporte une protestation dont il se trouve qu'il consolide le discours du maître en le complétant. Et pas seulement de la plus-value. En incitant, je sens que ça va provoquer des remous. En incitant la femme à exister comme égal. Égal à quoi? Personne ne le sait. Et on peut très bien dire aussi que l'homme égale zéro. Puisqu'il lui faut l'existence de quelque chose qu'il nie pour qu'il existe comme tous. L'autre terme, la sorte de confusion, qui n'est pas inhabituelle, nous vivons dans la confusion, et on aurait tort de croire que nous en vivons, ça ne va pas de soi. Je vois pas pourquoi le manque de confusion empêcherait de vivre. C'est même très curieux qu'on s'y précipite. C'est bien le cas de le dire. On s'y rue. Quand un discours tel que le discours analytique émerge, ce qu'il vous propose d'avoir les reins assez fermes pour soutenir le complot de la vérité. Chacun sait que les complots, hein, ça tourne court. C'est plus facile de faire tant de blablabla qu'on finit par très bien repérer tous les conjurés. Au confond, on se précipite. Dans la négation de la division sexuelle, de la différence, si vous voulez. Si j'ai dit division, c'est que c'est opérationnel. Si je dis différence, c'est parce que c'est précisément ce que prétend effacer cet usage du signe égal. La femme égale l'homme. Ce qui est formidable, n'est-ce pas? Ce qui est formidable, je vais vous le dire, hein, c'est pas toutes ces conneries. Ce qui est formidable, c'est l'obstacle. Qu'elle prétende de ce mot grotesque transgresser. Enseigner des choses, enfin, qui prétendaient rien transgresser, mais cerner un certain nombre de points nœuds, de points impossibles. Voilà. Vous voyez dans quoi bien sûr, en fait, des gens que ça dérangeait parce que ils étaient les représentants, les assis du discours psychanalytique en exercice, n'est-ce pas? On fait, enfin, comme ça, un de ces coups, enfin, qui vous affaiblissent la voix. Hein. Vous êtes arrivé comme ça, par un charmant gars, physiquement, comme ça, m'a fait ça un jour. Enfin. C'est un amour, enfin. Il y a mis un courage, il l'a fait malgré que j'étais en même temps sous la menace d'un truc auquel je croyais pas spécialement, mais enfin je faisais comme si d'un revolver. Hein, bon. Mais les types qui m'ont coupé la voix dans un certain moment, enfin... Ils l'ont pas fait malgré que. Ils l'ont fait parce que j'étais sous la menace d'un flingue. Je suis là d'un vrai, pas d'un joujou comme l'autre. Ça consistait à à me soumettre à l'examen, c'est-à-dire au standard. Précisément des gens qui voulaient rien entendre du discours analytique, encore qu'ils en occupassent la position assise. Alors, que vouliez-vous que je fie? Du moment que je ne me soumettais pas à cet examen, j'étais bien sûr d'avance condamné, ce qui, naturellement, rendait beaucoup plus facile de me couper la voix. Est-ce que ça existe, une voix comme ça? Ça a duré comme ça plusieurs années, enfin, je dois dire. J'avais si peu de voix comme ça. C'était même une voix dont sont nés les cahiers pour la psychanalyse, qui est une très, 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 très bonne littérature. Je vous les recommande, décidément, parce que j'étais tellement tout entier occupé à ma voix que moi, ces cahiers pour la psychanalyse, je vais tout vous dire. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas lire le Parménide, relire la phénoménologie et autres trucs. Et puis lire aussi les cahiers pour la psychanalyse pour que j'en repris du poète de la bête. J'en ai maintenant, je les ai lus. De bout en bout, c'est formidable. Formidable, mais c'est marginal, parce que c'était pas fait par des psychanalystes. Pendant ce temps-là, les psychanalystes bavardaient. On n'a jamais autant parlé de la transgression autour de moi que pendant le temps où j'avais la... Voilà. Allez. Parce que figurez-vous... Quand il s'agit... du véritable impossible, hein? De l'impossible qui se démontre. De l'impossible quel qu'il s'articule. Et ça, bien sûr, on y met le temps, hein? Entre les premiers scribouillages qui ont permis la naissance d'une logique à l'aide du questionnement de la langue, puis le fait que on s'est aperçu que ces scribouillages rencontraient quelque chose qui existait. Mais pas à la façon dont on croyait jusqu'alors, à la façon de l'être, c'est-à-dire de ce que chacun d'entre vous se croit être. Sous prétexte que vous êtes des individus. Vous êtes aperçu qu'il y avait des choses qui existaient. En ce sens qu'elles constituent la limite de ce qui peut tenir de l'avancée, de l'articulation d'un discours. C'est ça le réel. Son approche
son approche par la voie de ce que j'appelle le symbolique. Et qui veut dire les modes de ce qui s'énonce par ce chant. Ce chant qui existe du langage. C'est impossible, en tant qu'il se démontre, ne se transgresse pas. Il y a des choses qui depuis longtemps ont fait repérage. Repérage mythique peut-être, mais repérage très bien. Pas seulement de ce qu'il en est, de cet impossible, mais de sa motivation, très précisément à savoir que ne s'écrit pas le rapport sexuel. Dans le genre, on n'a jamais rien fait de mieux que, je ne dirais pas la religion, hein, parce que comme je vous le dirai, je vous l'expliquerai en long et en large, hein. On ne fait pas d'ethnologie quand on est psychanalyste. Et vous voyez la religion comme ça, dans un terme général, hein, c'est la même chose que de faire de l'ethnologie. Je ne peux pas dire non plus qu'il n'y en ait qu'une. Mais il y a celle dans laquelle nous baignons, la religion chrétienne. Eh bien, croyez-moi, la religion chrétienne, elle s'en arrange foutrement bien de vos transgressions. C'est même tout ce qu'elle souhaite. C'est ce qui la consolide. Plus il y a de transgression, plus ça l'arrange. Et c'est bien ça qu'il est question. Il s'agit de démontrer où est le vrai de ce qui fait tenir debout un certain nombre de discours qui vous empêtrent. Je finirai aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas abîmé ma bague. Je finirai aujourd'hui sur le même point par lequel j'ai commencé. Je suis parti de l'autre. J'en suis pas sorti. Parce que le temps passe. Et puis qu'après tout,
Faut pas croire qu'au moment où la séance finit, moi j'en ai pas ma claque. Je rebouclerai donc ce que j'ai dit, très local, concernant l'autre. L'essence qu'il pourra en être de ce que j'ai à vous avancer, de ce qui est le point pivot, le point que je vise, cette année, à savoir le. Ne vaut rien. Je ne l'ai pas abordé aujourd'hui parce que vous verrez, hein. Il n'y a rien qui soit aussi glissant que cet un. C'est très curieux, hein. En fait, chose qui a des faces à ce qu'elle se fasse, non point innombrables, mais singulièrement divergente, vous le verrez, c'est bien là. L'autre n'est pas pour rien. Il faut d'abord que j'en prenne l'appui. L'autre, entendez le bien. L'autre, entendez-le bien, c'est donc un autre. L'autre dont il s'agirait dans le rapport sexuel, mais déplacé et justement de s'autreposer. Qu'apposer cet autre, ce que j'ai eu à avancer aujourd'hui ne concerne que la femme. C'est bien elle. Qui de cette figure de l'autre nous donne l'illustration à notre portée d'être, comme l'a écrit un poète, entre centre et absent. Entre le sens qu'elle prend dans ce que j'ai appelé au moins un, où elle ne le trouve qu'à l'état de ce que je vous ai annoncé, annoncé pas plus de n'être que pur existant. Entre centre et l'absence, que devient quoi pour elle? Justement, cette seconde part que je n'ai pu écrire qu'à la définir comme pas toute. Celle qui n'est pas contenue dans la fonction phallique, sans pourtant être sa négation. Son mode de présence est entre centre et absence, entre la fonction phallique dont elle participe.
contrairement de ce que l'au moins un qui est son partenaire, dans l'amour, il renonce pour elle. Ce qui lui permet, à elle, de laisser ce par quoi elle n'en participe pas dans l'absence, qui n'est pas moins jouissance, d'être jouis absence. Mais je pense que personne ne dira que ce que j'énonce, de la fonction phallique relève d'une méconnaissance de ce qu'il en est de la jouissance féminine. C'est au contraire de ce que la jouie présence, si je puis ainsi m'exprimer, de la femme dans cette partie qui ne la fait pas toute ouverte à la fonction phallique. C'est de ce que cette jouie présence, l'au moins un, soit pressée de l'habiter dans un contresens radical. Sur ce qui exige son existence. C'est en raison de ce contresens ce qui fait qu'il ne peut même plus exister que l'exception de son existence même est exclue. Qu'alors, ce statut de l'autre fait de n'être pas universel s'évanouit. Et que la méconnaissance de l'homme en est nécessité, ce qui est la définition de l'hystérique. C'est là-dessus que je vous laisserai aujourd'hui, je mets un point et je vous donne rendez-vous dans 8 jours, la séance de Sainte-Anne tombe un jour tel, le premier jeudi d'avril, que j'en avertis ceux qui sont ici pour qu'ils le fassent savoir aux autres, qui fréquentent Sainte-Anne, elle n'aura pas.